Cosette, livre septième, parenthèse. Chapitre 1. Le couvent, idée abstraite. Ce livre est un drame dont le premier personnage est l'infini. L'homme est le second. Cela étant, comme un couvent s'est trouvé sur notre chemin, nous avons dû y pénétrer. Pourquoi ? C'est que le couvent, qui est propre à l'Orient comme à l'Occident, à l'Antiquité comme au temps moderne, au paganisme, au bouddhisme, au mahométisme comme au christianisme, est un des appareils d'optique appliqués par l'homme sur l'infini. Ce n'est point ici le lieu de développer hors de mesure de certaines idées. Cependant, tout en maintenant absolument nos réserves, nos restrictions et même nos indignations, nous devons le dire, toutes les fois que nous rencontrons dans l'homme l'infini, bien ou mal compris, nous nous sentons pris de respect. Il y a dans la synagogue, dans la mosquée, dans la pagode, dans le wigwam, un côté hideux que nous exécrons et un côté sublime que nous adorons. Quelle contemplation pour l'esprit et quelle rêverie sans fond. La réverbération de Dieu sur le mur humain. Chapitre 2. Le couvent, fait historique. Au point de vue de l'histoire, de la raison et de la vérité, le monarchisme est condamné. Les monastères, quand ils abondent chez une nation, sont des nœuds à la circulation, des établissements encombrants, des centres de paresse là où il faut des centres de travail. Les communautés monastiques sont à la grande communauté sociale ce que le gui est au chêne, ce que la verrue est au corps humain. Leur prospérité et leur embonpoint sont l'appauvrissement du pays. Le régime monacal, bon au début des civilisations, utile à produire la réduction de la brutalité par le spirituel, est mauvais à la virilité des peuples. En outre, lorsqu'il se relâche et qu'il entre dans sa période de dérèglement, comme il continue à donner l'exemple, il devient mauvais par toutes les raisons qui le faisaient salutaire dans sa période de pureté. Les claustrations ont fait leur temps. Les cloîtres, utiles à la première éducation de la civilisation moderne, ont été gênants pour sa croissance et sont nuisibles à son développement. En tant qu'institution et que mode de formation pour l'homme, les monastères, bons au Xe siècle, discutables au XVe, sont détestables au XIXe. La lèpre monacale a presque rongé jusqu'au squelette deux admirables nations, l'Italie et l'Espagne, l'une la lumière, l'autre la splendeur de l'Europe pendant des siècles. Et, à l'époque où nous sommes, ces deux illustres peuples ne commencent à guérir que grâce à la saine et vigoureuse hygiène de 1789. Le couvent, l'antique couvent de femmes particulièrement, tel qu'il apparaît encore au seuil de ce siècle en Italie, en Autriche, en Espagne, est une des plus sombres concrétions du Moyen-Âge. Le cloître, ce cloître-là, est le point d'intersection des terreurs. Le cloître catholique, proprement dit, est tout rempli du rayonnement noir de la mort. Le couvent espagnol surtout est funèbre. Là monte dans l'obscurité, sous des voûtes pleines de brume, sous des dômes vagues à force d'ombre, de massifs autels babyliques, hauts comme des cathédrales. Là pendent à des chaînes dans les ténèbres d'immenses crucifix blancs. Là s'étale, nu sur l'ébène, de grands cristaux d'ivoire. Plus que sanglant, saignant, hideux et magnifique, les coudes montrant les os, les rotules montrant les téguments, les plaies montrant les chairs, couronnées d'épines d'argent, clouées de clous d'or, avec des gouttes de sang en rubis sur le front et des larmes en diamants dans les yeux. Les diamants et les rubis semblent mouillés et font pleurer en bas, dans l'ombre, des êtres voilés qui ont les flancs meurtris par le cilice et par le fouet aux pointes de fer, les seins écrasés par des claies d'osier, les genoux écorchés par la prière. Des femmes qui se croient des épouses, des spectres qui se croient des séraphins. Ces femmes, pensent-elles? Non. Veulent-elles? Non. Aiment-elles? Non. Vivent-elles? Non. Leurs nerfs sont devenus des os, leurs os sont devenus des pierres, leur voile est de la nuit tissu. Leur souffle sous le voile ressemble à on ne sait quelle tragique respiration de la mort. L'abbesse, une larve, les sanctifie et les terrifie. L'Immaculée est là, farouche. Tels sont les vieux monastères d'Espagne. Repère de la dévotion terrible, antre de vierges, lieu féroce. L'Espagne catholique était plus romaine que Rome même. Le couvent espagnol était par excellence le couvent catholique. On y sentait l'Orient. L'archevêque, Quisla Raga, du ciel, verrouillait et espionnait ce sérail d'âmes réservées à Dieu. La nonne était l'odalisque, le prêtre était l'eunuque. Les ferventes étaient choisies en songe et possédaient Christ. La nuit, le beau jeune homme, nu, descendait de la croix et devenait l'extase de la cellule. De hautes murailles gardaient de toute distraction vivante la sultane mystique qui avait le crucifié pour sultan. Un regard dehors était une infidélité. L'inpace remplaçait le sac de cuir. Ce qu'on jetait à la mer en Orient, on le jetait à la terre en Occident. Des deux côtés, des femmes se tordaient les bras. La vague aux unes, la fosse aux autres, ici les noyer, là les enterrer. Parallélisme monstrueux. Aujourd'hui, les souteneurs du passé, ne pouvant nier ces choses, ont pris le parti d'en sourire. On a mis à la mode une façon commode et étrange de supprimer les révélations de l'histoire, d'infirmer les commentaires de la philosophie, et d'élider tous les faits gênants et toutes les questions sombres. « Matière à déclamation, » disent les habiles. « Déclamation, » répètent les niais. Jean-Jacques déclamateur, Diderot déclamateur, Voltaire sur Calas, Labarre et Sirvaine déclamateur. Je ne sais qui a trouvé dernièrement que Tacite était un déclamateur, que Néron était une victime, et que décidément il fallait s'apitoyer sur ce pauvre Holoferne. Les faits, pourtant, sont malaisés à déconcerter et s'obstinent. L'auteur de ce livre a vu, de ses yeux, à 8 lieues de Bruxelles. C'est là du Moyen-Âge que tout le monde a sous la main. À l'abbaye de Villers, le trou des oubliettes au milieu du pré, qui a été la cour du cloître. Et au bord de la dyle, 4 cachots de pierre, moitié sous terre, moitié sous l'eau. C'était des inpace. Chacun de ces cachots a un reste de porte de fer, une latrine et une lucarne grillée, qui, dehors, est à 2 pieds au-dessus de la rivière, et dedans, à 6 pieds au-dessus du sol. 4 pieds de rivière coulent extérieurement le long du mur. Le sol est toujours mouillé. L'habitant de l'Inpace avait pour lit cette terre mouillée. Dans l'un des cachots, il y a un tronçon de carcan scellé au mur. Dans un autre, on voit une espèce de boîte carrée faite de 4 lames de granit, trop courte pour qu'on s'y couche, trop basse pour qu'on s'y dresse. On mettait là-dedans un être avec un couvercle de pierre par-dessus. Cela est. On le voit, on le touche. C'est Zinpache, c'est cachot, c'est gonds de fer, c'est carcan, cette haute lucarne au ras de laquelle coule la rivière, cette boîte de pierre fermée d'un couvercle de granit comme une tombe, avec cette différence qu'ici, le mort était vivant, ce sol qui est de la boue, ce trou de latrine, ces murs qui suintent. Quel déclamateur ! Chapitre 3. À quelles conditions on peut respecter le passé ? Le monarchisme, tel qu'il existait en Espagne et tel qu'il existe au Tibet, est pour la civilisation une sorte de phtisie. Il arrête net la vie. Il dépeuple, tout simplement. Claustration, castration. Il a été fléau en Europe. Ajoutez à cela la violence, si souvent faite à la conscience, les vocations forcées, la féodalité s'appuyant au cloître, l'aînesse versant dans le monachisme le trop-plein de la famille, les férocités dont nous venons de parler, les inpace, les bouches closes, les cerveaux murés, tant d'intelligences infortunées mises au cachot des vœux éternels, la prise d'habit, enterrement des âmes toutes vives. Ajoutez les supplices individuels aux dégradations nationales, et qui que vous soyez, vous vous sentirez tressaillir devant le froc et le voile, ces deux suaires d'invention humaine. Pourtant, sur certains points et en certains lieux, en dépit de la philosophie, en dépit du progrès, l'esprit claustral persiste en plein XIXe siècle, et une bizarre recrudescence ascétique étonne en ce moment le monde civilisé. L'entêtement des institutions vieillies à se perpétuer ressemble à l'obstination du parfum ranci qui réclamerait votre chevelure, à la prétention du poisson gâté qui voudrait être mangé, à la persécution du vêtement d'enfant qui voudrait habiller l'homme, et à la tendresse des cadavres qui reviendraient embrasser les vivants. « Ingrat, dit le vêtement, je vous ai protégé dans le mauvais temps. Pourquoi ne voulez-vous plus de moi ?»« Je viens de la pleine mer, dit le poisson. J'ai été la rose, dit le parfum. Je vous ai aimé, dit le cadavre. Je vous ai civilisé, dit le couvent. » À cela, une seule réponse. Jadis. Rêver la prolongation indéfinie des choses défuntes et le gouvernement des hommes par embaumement, restaurer les dogmes en mauvais état, redorer les chasses, recrépir les cloîtres, rebénir les reliquaires, remeubler les superstitions, ravitailler les fanatismes, remmancher les goupillons et les sabres, reconstituer le monarchisme et le militarisme, croire au salut de la société par la multiplication des parasites, imposer le passé au présent. Cela semble étrange. Il y a cependant des théoriciens pour ces théories-là. Ces théoriciens, gens d'esprit d'ailleurs, ont un procédé bien simple. Ils appliquent sur le passé un enduit qu'ils appellent ordre social, droit divin, morale, famille, respect des aïeux, autorité antique, tradition sainte, légitimité, religion. Et ils vont criant « Voyez, prenez ceci, honnêtes gens !» Cette logique était connue des anciens. Les aruspices la pratiquaient. Ils frottaient de craie une génisse noire et disaient « Elle est blanche !»« Bos cretatus !» Quant à nous, nous respectons ça et là et nous épargnons partout le passé, pourvu qu'il consente à être mort. S'il veut être vivant, nous l'attaquons et nous tâchons de le tuer. Superstition, bigotisme, cagotisme, préjugés, ces larves, toutes larves qu'elles sont, sont tenaces à la vie. Elles ont des dents et des ongles dans leur fumée, et il faut les étreindre corps à corps et leur faire la guerre, et la leur faire sans trêve, car c'est une des fatalités de l'humanité d'être condamné à l'éternel combat des fantômes. L'ombre est difficile à prendre à la gorge et à terrasser. Un couvent en France, en plein midi du XIXe siècle, c'est un collège de hiboux faisant face au jour. Un cloître, en flagrant délit d'ascétisme au beau milieu de la cité de 89, de 1830 et de 1848, Rome s'épanouissant dans Paris, c'est un anachronisme. En temps ordinaire, pour dissoudre un anachronisme et le faire évanouir, on n'a qu'à lui faire épeler le millésime. Mais nous ne sommes point en temps ordinaire. Combattons. Combattons, mais distinguons. Le propre de la vérité, c'est de n'être jamais excessive. Quel besoin a-t-elle d'exagérer ? Il y a ce qu'il faut détruire, et il y a ce qu'il faut simplement éclairer et regarder. L'examen bienveillant et grave, quelle force ! N'apportons point la flamme là où la lumière suffit. Donc, le XIXe siècle étant donné, nous sommes contraires, en thèse générale, et chez tous les peuples, en Asie comme en Europe, dans l'Inde comme en Turquie, aux claustrations ascétiques. Qui dit couvent dit marais. Leur putrescibilité est évidente, leur stagnation est malsaine, leur fermentation enfièvre les peuples et les étiole, leur multiplication devient plaie d'Égypte. Nous ne pouvons penser sans effroi à ces pays où les fakirs, les bonzes, les santons, les caloyers, les marabouts, les talapoins et les derviches pullulent jusqu'au fourmillement vermineux. Cela dit, la question religieuse subsiste. Cette question a de certains côtés mystérieux, presque redoutables, qu'il nous soit permis de la regarder fixement. Chapitre 4. Le couvent au point de vue des principes. Des hommes se réunissent et habitent en commun. En vertu de quel droit ? En vertu du droit d'association. Ils s'enferment chez eux. En vertu de quel droit ? En vertu du droit qu'a tout homme d'ouvrir ou de fermer sa porte. Ils ne sortent pas. En vertu de quel droit ? En vertu du droit d'aller et de venir qui implique le droit de rester chez soi. Là, chez eux, que font-ils ? Ils parlent bas, ils baissent les yeux, ils travaillent, ils renoncent au monde, aux villes, aux sensualités, aux plaisirs, aux vanités, aux orgueils, aux intérêts. Ils sont vêtus de grosses laines ou de grosses toiles. Pas un d'eux ne possède en propriété quoi que ce soit. En entrant là, celui qui était riche se fait pauvre. Ce qu'il a, il le donne à tous. Celui qui était ce qu'on appelle noble, gentilhomme et seigneur, est l'égal de celui qui était paysan. La cellule est identique pour tous. Tous subissent la même tonsure, portent le même froc, mangent le même pain noir, dorment sur la même paille, meurent sur la même cendre, le même sac sur leur dos, la même corde autour des reins. Si le parti pris est d'aller pieds nus, tous vont pieds nus. Il peut y avoir là un prince. Ce prince est la même ombre que les autres. Plus de titres. Les noms de famille même ont disparu. Ils ne portent que des prénoms. Tous sont courbés sous l'égalité des noms de baptême. Ils ont dissous la famille charnelle et constitué dans leur communauté la famille spirituelle. Ils n'ont plus d'autres parents que tous les hommes. Ils secourent les pauvres, ils soignent les malades. Ils élisent ceux auxquels ils obéissent. Ils se disent l'un à l'autre, « Mon frère ». Vous m'arrêtez et vous vous écriez, « Mais c'est là le couvent idéal ?» Il suffit que ce soit le couvent possible pour que j'en doive tenir compte. De là vient que, dans le livre précédent, j'ai parlé d'un couvent avec un accent respectueux. Le Moyen-Âge écarté, l'Asie écartée, la question historique et politique réservée, au point de vue philosophique pur, en dehors des nécessités de la polémique militante, à la condition que le monastère soit absolument volontaire et ne renferme que des consentements, je considérerai toujours la communauté claustrale avec une certaine gravité attentive et, à quelques égards, déférente. Là où il y a la communauté, il y a la commune. Là où il y a la commune, il y a le droit. Le monastère est le produit de la formule égalité, fraternité. Oh, que la liberté est grande et quelle transfiguration splendide! La liberté suffit à transformer le monastère en république. Continuons. Mais ces hommes, ou ces femmes, qui sont derrière ces quatre murs, ils s'habillent de bure, ils sont égaux, ils s'appellent frères. C'est bien. Mais ils font encore autre chose. Oui. Quoi? Ils regardent l'ombre, ils se mettent à genoux et ils joignent les mains. Qu'est-ce que cela signifie? Chapitre 5. La prière. Ils prient. Qui? Dieu. Prier Dieu, que veut dire ce mot? Y a-t-il un infini hors de nous? Cet infini est-il un, immanent, permanent, nécessairement substantiel, puisqu'il est infini, et que si la matière lui manquait, il serait borné là, nécessairement intelligent, puisqu'il est infini, et que si l'intelligence lui manquait, il serait fini là? Cet infini éveille-t-il en nous l'idée d'essence, tandis que nous ne pouvons nous attribuer à nous-mêmes que l'idée d'existence? En d'autres termes, n'est-il pas l'absolu dont nous sommes le relatif? En même temps qu'il y a un infini hors de nous, n'y a-t-il pas un infini en nous? Ces deux infinis, quel pluriel effrayant! Ne se superposent-ils pas l'un à l'autre? Le second infini n'est-il pas, pour ainsi dire, sous-jacent au premier? N'en est-il pas le miroir, le reflet, l'écho, abîme concentrique à un autre abîme? Ce second infini est-il intelligent lui aussi? Pense-t-il? Aime-t-il? Veut-il? Si les deux infinis sont intelligents, chacun d'eux a un principe voulant, et il y a un moi dans l'infini d'en haut, comme il y a un moi dans l'infini d'en bas. Ce moi d'en bas, c'est l'âme. Ce moi d'en haut, c'est Dieu. Mettre par la pensée l'infini d'en bas en contact avec l'infini d'en haut, cela s'appelle prier. Ne retirons rien à l'esprit humain. Supprimer est mauvais. Il faut réformer et transformer. Certaines facultés de l'homme sont dirigées vers l'inconnu. La pensée, la rêverie, la prière. L'inconnu est un océan. Qu'est-ce que la conscience? C'est la boussole de l'inconnu. Pensée, rêverie, prière, ce sont là de grands rayonnements mystérieux. Respectons-les. Où vont ces irradiations majestueuses de l'âme? À l'ombre, c'est-à-dire à la lumière. La grandeur de la démocratie, c'est de ne rien nier et de ne rien renier de l'humanité. Près du droit de l'homme, au moins à côté, il y a le droit de l'âme. Écraser les fanatismes et vénérer l'infini, telle est la loi. Ne nous bornons pas à nous prosterner sous l'arbre création et à contempler ces immenses branchages pleins d'astres. Nous avons un devoir. Travailler à l'âme humaine. défendre le mystère contre le miracle, adorer l'incompréhensible et rejeter l'absurde, n'admettre, en fait d'inexplicable, que le nécessaire, assainir la croyance, ôter les superstitions de dessus la religion, écheniller Dieu. Chapitre 6. Bonté absolue de la prière. Quant au mode de prier, tous sont bons, pourvu qu'ils soient sincères. Tournez votre livre à l'envers et soyez dans l'infini. Il y a, nous le savons, une philosophie qui nie l'infini. Il y a aussi une philosophie classée pathologiquement qui nie le soleil. Cette philosophie s'appelle cécité. Ériger un sens qui nous manque en source de vérité, c'est un bel aplomb d'aveugle. Le curieux, ce sont les airs hautains, supérieurs et compatissants que prend vis-à-vis de la philosophie qui voit Dieu, cette philosophie à tâtons. On croit entendre une taupe s'écrier « Ils me font pitié avec leur soleil !» Il y a, nous le savons, d'illustres et puissants athées. Ceux-là, au fond, ramenés au vrai par leur puissance même, ne sont pas bien sûrs d'être athées. Ce n'est guère avec eux qu'une affaire de définition, et dans tous les cas, s'ils ne croient pas Dieu, étant de grands esprits, ils prouvent Dieu. Nous saluons en eux les philosophes, tout en qualifiant inexorablement leur philosophie. Continuons. L'admirable aussi, c'est la facilité à se payer de mots. Une école métaphysique du Nord, un peu imprégnée de brouillard, a cru faire une révolution dans l'entendement humain en remplaçant le mot « force » par le mot « volonté ». Dire « la plante veut » au lieu de « la plante croit ». Cela serait fécond, en effet, si l'on ajoutait « l'univers veut ». Pourquoi ? C'est qu'il en sortirait ceci. La plante veut, donc elle a un moi. L'univers veut, donc il a un Dieu. Quant à nous, qui pourtant, au rebours de cette école, ne rejetons rien a priori, une volonté dans la plante, acceptée par cette école, nous paraît plus difficile à admettre qu'une volonté dans l'univers, niée par elle. Nier la volonté de l'infini, c'est-à-dire Dieu, cela ne se peut qu'à la condition de nier l'infini, nous l'avons démontré. La négation de l'infini mène droit au nihilisme. Tout devient une conception de l'esprit. Avec le nihilisme, pas de discussion possible, car le nihilisme logique doute que son interlocuteur existe et n'est pas bien sûr d'exister lui-même. À son point de vue, il est possible qu'il ne soit lui-même pour lui-même qu'une conception de son esprit. Seulement, il ne s'aperçoit point que tout ce qu'il a nié, il l'admet en bloc, rien qu'en prononçant ce mot « esprit ». En somme, aucune voie n'est ouverte pour la pensée par une philosophie qui fait tout aboutir au monosyllabe « non ». Ah, non ? Il n'y a qu'une réponse, oui. Le nihilisme est sans portée. Il n'y a pas de néant. Zéro n'existe pas. Tout est quelque chose. Rien n'est rien. L'homme vit d'affirmation plus encore que de pain. Voir et montrer, cela même ne suffit pas. La philosophie doit être une énergie. Elle doit avoir pour effort et pour effet d'améliorer l'homme. Socrate doit entrer dans Adam et produire Marc Aurèle. En d'autres termes, faire sortir de l'homme de la félicité l'homme de la sagesse. Changer l'Éden en lycée. La science doit être un cordial. Jouir, quel triste but et quelle ambition chétive. La brute jouit. Penser, voilà le triomphe vrai de l'âme. Tendre la pensée à la soif des hommes, leur donner à tous en élixir la notion de Dieu, faire fraterniser en eux la conscience et la science, les rendre justes par cette confrontation mystérieuse, Telle est la fonction de la philosophie réelle. La morale est un épanouissement de vérité. Contempler mène à agir. L'absolu doit être pratique. Il faut que l'idéal soit respirable, potable et mangeable à l'esprit humain. C'est l'idéal qui a le droit de dire « Prenez, ceci est ma chair, ceci est mon sang. » La sagesse est une communion sacrée. C'est à cette condition qu'elle cesse d'être un stérile amour de la science pour devenir le mode un et souverain du ralliement humain, et que de philosophie elle est promue religion. La philosophie ne doit pas être un simple encorbellement bâti sur le mystère pour le regarder à son aise, sans autre résultat que d'être commode à la curiosité. Pour nous, en ajournant le développement de notre pensée à une autre occasion, nous nous bornons à dire que nous ne comprenons ni l'homme comme point de départ, ni le progrès comme but, sans ces deux forces qui sont les deux moteurs, croire et aimer. Le progrès est le but, l'idéal est le type. Qu'est-ce que l'idéal ? C'est Dieu. Idéal, absolu, perfection, infini, mots identiques. Chapitre 7. Précautions à prendre dans le blâme. L'histoire et la philosophie ont d'éternels devoirs qui sont en même temps des devoirs simples. Combattre Caïphe évêque, Dracon juge, Trimalcion législateur, Tibère empereur. Cela est clair, direct et limpide et n'offre aucune obscurité. Mais le droit de vivre à part, même avec ses inconvénients et ses abus, veut être constaté et ménagé. Le cénobitisme est un problème humain. Lorsqu'on parle des couvents, c'est lieu d'erreur, mais d'innocence, d'égarement, mais de bonne volonté, d'ignorance, mais de dévouement, de supplice, mais de martyr. Il faut presque toujours dire oui et non. Un couvent, c'est une contradiction. Pour but, le salut, pour moyen, le sacrifice. Le couvent, c'est le suprême égoïsme ayant pour résultante la suprême abnégation. Abdiquer pour régner semble être la devise du monachisme. Au cloître, on souffre pour jouir. On tire une lettre de change sur la mort. On escompte en nuit terrestre la lumière céleste. Au cloître, l'enfer est accepté en avance d'oirie sur le paradis. La prise de voile ou de froc est un suicide payé d'éternité. Il ne nous paraît pas qu'en un pareil sujet, la moquerie soit de mise. Tout y est sérieux, le bien comme le mal. L'homme juste fronce le sourcil, mais ne sourit jamais du mauvais sourire. Nous comprenons la colère, non la malignité. Chapitre 8. Foi, loi. Encore quelques mots. Nous blâmons l'Église quand elle est saturée d'intrigues. Nous méprisons le spirituel âpre au temporel. Mais nous honorons partout l'homme pensif. Nous saluons qui s'agenouille. Une foi, c'est là pour l'homme le nécessaire. Malheur à qui ne croit rien. On n'est pas inoccupé parce qu'on est absorbé. Il y a le labeur visible et le labeur invisible. Contempler, c'est labourer. Penser, c'est agir. Les bras croisés travaillent, les mains jointes font. Le regard au ciel est une œuvre. Thalès resta 4 ans immobile. Il fonda la philosophie. Pour nous, les cénobites ne sont pas des oisifs et les solitaires ne sont pas des fainéants. Songer à l'ombre est une chose sérieuse. Sans rien infirmer de ce que nous venons de dire, nous croyons qu'un perpétuel souvenir du tombeau convient aux vivants. Sur ce point, le prêtre et le philosophe sont d'accord. Il faut mourir. L'abbé de la Trappe donne la réplique à Horace. Mêler à sa vie une certaine présence du sépulcre, c'est la loi du sage, et c'est la loi de l'ascète. Sous ce rapport, l'ascète et le sage convergent. Il y a la croissance matérielle, nous la voulons. Il y a aussi la grandeur morale, nous y tenons. Les esprits irréfléchis et rapides disent « À quoi bon ces figures immobiles du côté du mystère ? À quoi servent-elles ? Qu'est-ce qu'elles font ?» Hélas, en présence de l'obscurité qui nous environne et qui nous attend, ne sachant pas ce que la dispersion immense fera de nous, nous répondons « Il n'y a pas d'œuvre plus sublime, peut-être, que celle que font ces âmes. » Et nous ajoutons « Il n'y a peut-être pas de travail plus utile. » Il faut bien ceux qui prient toujours pour ceux qui ne prient jamais. Pour nous, toute la question est dans la quantité de pensées qui se mêlent à la prière. Leibniz priant, cela est grand. Voltaire adorant, cela est beau. Deo erexit Voltaire. Nous sommes pour la religion, contre les religions. Nous sommes de ceux qui croient à la misère des oraisons et à la sublimité de la prière. Du reste, dans cette minute que nous traversons, minute qui heureusement ne laissera pas au XIXe siècle sa figure, à cette heure où tant d'hommes ont le front bas et l'âme peu haute, parmi tant de vivants ayant pour morale de jouir et occupés des choses courtes et difformes de la matière, quiconque s'exile nous semble vénérable. Le monastère est un renoncement. Le sacrifice qui porte à faux est encore le sacrifice. Prendre pour devoir une erreur sévère, cela a sa grandeur. Pris en soi et idéalement, et pour tourner autour de la vérité jusqu'à épuisement impartial de tous les aspects, le monastère, le couvent de femmes surtout, car dans notre société, c'est la femme qui souffre le plus. Et dans cet exil du cloître, il y a de la protestation. Le couvent de femmes a incontestablement une certaine majesté. Cette existence claustrale, si austère et si morne, dont nous venons d'indiquer quelques linéaments, ce n'est pas la vie, car ce n'est pas la liberté. Ce n'est pas la tombe, car ce n'est pas la plénitude. C'est le lieu étrange d'où l'on aperçoit, comme de la crête d'une haute montagne, d'un côté l'abîme où nous sommes, de l'autre l'abîme où nous serons. C'est une frontière étroite et brumeuse, séparant deux mondes, éclairée et obscurcie par les deux à la fois, où le rayon affaibli de la vie se mêle au rayon vague de la mort. C'est la pénombre du tombeau. Quant à nous, qui ne croyons pas ce que ces femmes croient, mais qui vivons comme elles par la foi, nous n'avons jamais pu considérer, sans une espèce de terreur religieuse et tendre, sans une espèce de pitié pleine d'envie, ces créatures dévouées, tremblantes et confiantes, ces âmes humbles et augustes qui osent vivre au bord même du mystère, attendant, entre le monde qui est fermé et le ciel qui n'est pas ouvert, tournées vers la clarté qu'on ne voit pas, ayant seulement le bonheur de penser qu'elles savent où elle est, aspirant au gouffre et à l'inconnu, l'œil fixé sur l'obscurité immobile, agenouillée, éperdue, stupéfaite, frissonnante, à demi soulevée à de certaines heures par les souffles profonds de l'éternité.